Salut et bienvenue dans l'épisode 9 de la saison 6 d'ici Montferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM Clermont. Avant toute chose, permettez-moi de vous souhaiter en ce 1er janvier une très belle année 2024 pour vous et pour vos proches. Donc pour ce nouvel épisode, j'accueille...
Et la santé surtout.
Et la santé, c'est toujours très important.
C'est le plus important.
Arnaud Clerc et Didier Cros qui m'accompagnent en ce 1er janvier. Bonjour messieurs.
Et bien bonjour Manu et tous mes voeux à toutes et à tous.
Salut Manu, salut Didier, et très bonne année à tous les auditeurs du podcast ici Montferrand.
Et ils sont nombreux,
et les auditrices également, bien évidemment.
Plus en plus nombreux. Au menu de ce nouvel épisode, alors c'est une question un petit peu incontournable hein, en ce 1er janvier. 2024 peut-elle enfin être l'année du renouveau pour l'ASM Clermont? Nous allons en parler au cours de cette émission. Nous terminerons bien sûr avec les traditionnels top et flop. Mais avant de nous intéresser au thème principal de ce podcast, revenons tout d'abord sur le dernier match de l'année 2023 de l'ASM qui s'est soldé par cette défaite. C'était vendredi soir du côté du Michelin, défaite face à Bordeaux-Bègles. Alors, en cette période de fête, le Père Noël, j'ai presque envie de dire, avait laissé de côté sa traditionnelle robe rouge et sa barbe blanche pour enfiler un maillot bleu et jaune. Les Clermontois ont donné le match. Enfin, c'est ce que tu as écrit dans les colonnes de la Montagne, Arnaud, dans l'édition de samedi. Que de cadeaux, Clermontois.
Oh ben c'est incroyable. J'étais en train de regarder les statistiques du match. Toutes les stats, presque quasi toutes les stats sont en faveur de l'ASM. Je veux dire, quelqu'un qui n'a pas vu le match et qui regarde la feuille de stats se dit bah non, mais c'est l'ASM qui a gagné le match, c'est obligé, en termes de possession, en termes d'occupation, en termes de mettre avec le ballon, en termes de franchissement, en termes qu'est-ce qu'il y avait d'autre, enfin toutes les stats sont en faveur de l'ASM. Eh ben non, l'ASM a perdu le match. L'ASM, sur les 40 points donnés par Bordeaux, Étienne Falgou dit qu'il y en a au moins 30. Je pense qu'il y en a presque même un peu plus. C'est incroyable. Défensivement, cette équipe a été en dessous de tout. Et ouais, véritablement, l'ASM a donné le match à Bordeaux qui n'en demandait pas tant.
Alors, on rappelle l'ASM qui est repassé devant à la 78e sur cette pénalité d'Anthony Bello. L'ASM qui menait alors 35 à 33. Et puis, derrière, il y a eu ce renvoi. Donc, on a parlé de ce dernier renvoi, mais les renvois ont posé problème tout au long de la partie. Il y a eu des pénalités offertes aux Bordelais qui ont permis aux Girondins de scorer assez rapidement. Il y a eu des erreurs de défense. Enfin, effectivement, offensivement, l'ASM, surtout en deuxième mi-temps et lorsqu'elle s'est retrouvée à 15 contre 14, a plutôt montré des choses intéressantes par séquence. Mais défensivement, ça a été très compliqué.
Il y a eu des grosses erreurs individuelles de défense, des erreurs aussi collectives. Mais ça traduit, à mon avis, simplement un constat, c'est que quand on commet autant d'erreurs, quand on commet autant de largesse, quand on n'arrive pas non plus à concrétiser cet amphore comme ça a été le cas vendredi, ça traduit simplement le fait que Clermont est encore une équipe moyenne, tout simplement. Les équipes moyennes, elles n'y parviennent jamais. Et on a toujours l'impression de revoir les mêmes matchs parce que ce sont des équipes moyennes et qu'elles sont confrontées à leurs limites. Face à une équipe plus forte, c'est encore plus visible, malheureusement, pour Clermont. Donc, c'est un constat qui est récurrent, mais qui traduit, à mon avis, la faiblesse actuelle de cette équipe, tout simplement.
Oui, parce que quand on voit combien la SM peine à marquer des essais, il faut plusieurs temps de jeu. Ils l'ont très bien fait, ça. Ils ont marqué 4 essais. Enfin, là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais quand on voit combien la SM peine, doit multiplier les temps de jeu, doit porter le ballon, doit. Enfin, c'est au bout de séquences assez longues que la SM a marqué des essais, à part celui inscrit par Delgui, qui est sur un ballon de récupération. Mais tous les autres essais, enfin, c'est des séquences longues. Et Bordeaux, quand on voit les essais de Bordeaux, c'est des essais à une passe. Enfin, franchement, il y a un gap très important au niveau des individualités. Exactement, c'est ce que disait Didier. Quand on a des individualités, des facteurs X, il y a plus de chances qu'on marque des essais faciles. Donc, c'est probablement ce qui manque à l'ASM derrière actuellement. Ça manque de facteur X. Quoi. Il y a Moala et Raka, mais quand Moala et Raka sont pas en forme,
derrière,
il se passe pas grand-chose, quoi.
Encore une fois, donc c'est la troisième défaite de suite, hein, des Clermontois, toutes compétitions confondues, défaite à Gloucester, défaite à Pau, défaite donc face à l'UBB, deuxième défaite à domicile
c'est
déjà.
C'est surtout
après,
ça.
Après la ouais. défaite face à Toulon. Encore une fois, alors on aura l'occasion d'en reparler dans quelques minutes, mais l'ASM a réagi. Plus qu'elle n'a agi, a réagi notamment sur le début de la deuxième mi-temps, lorsqu'elle était encore en supériorité numérique, avait déjà eu du mieux sur la fin de la première période. Mais on a l'impression qu'il faut toujours que cette équipe soit menée pour qu'elle essaie de mettre des choses en place.
C'est vrai que, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est caractéristique des équipes qui se cherchent aussi, hein, qui sont toujours à courir après le score parce qu'il leur arrive toujours des faits de jeu contraires. Contrairement aux équipes qui maîtrisent, aux équipes qui sont en confiance et qui semblent, elles, maîtriser leur destin et parvenir en fin de compte à enlever la mise. Clairement, actuellement dans une mauvaise spirale, dans une mauvaise passe, et tous les éléments se lient contre elle. Enfin, on a l'impression que tous les éléments se lient contre elle, mais en fait, j'en reviens à ce que je disais, elle est confrontée à ses limites actuelles, et contre des équipes comme Bordeaux, qui, elles, surfent sur la dynamique du succès, eh bien la différence se fait presque, j'allais dire, naturellement, mais dans un sport collectif, il y a malheureusement peu de hasard, on peut gagner une fois, on peut perdre une fois sur un coup de dé, ça arrive. Mais quand ça arrive aussi souvent, que les histoires se répètent aussi fréquemment, c'est quand même ça traduit quand même des choses plus profondes à mon avis.
Sur l'action et la réaction, j'ai un petit bémol à mettre. L'ASM en début de match a plutôt été dans l'action, a plutôt investi le camp bordelais. J'en veux pour preuve le premier essai bordelais, enfin Liu Kui, il récupère le ballon, il est presque sur sa ligne d'en-but.
C'est vrai.
Et c'est encore une action que l'ASM n'a pas su tuer, que l'ASM n'a pas su concrétiser. Et c'est un ballon récupéré, il y avait 0-0, bah, Liu Kui récupère le ballon sur sa ligne en but, et 95 mètres plus tard, c'est Tamboué qui a platillé au milieu des perches. Donc oui, après l'ASM, après ce premier essai, l'ASM a tout le temps couru après le score, mais le début de match, les Clermontois étaient plutôt dans l'action.
En tout cas, Clermont qui a fini cette année 2023 avec un sacré mal de tête, alors c'est un peu de saison aussi. 2024 s'ouvre, donc d'où cette question, et c'est le thème principal, et c'est la question qui va nous intéresser dans ce nouvel épisode du podcast ici Montferrand. 2024 peut-elle être enfin l'année du renouveau pour l'ASM ? Un petit tour de table rapide, messieurs.
Moi, je vois pas comment, vous m'auriez dit 2025, pardon, j'aurais dit peut-être oui, mais là, 2024, je vois pas comment pour le moment.
Ouais, je vais être un peu plus optimiste, je dirais la deuxième partie de 2024, c'est-à-dire la saison prochaine.
Donc si je vous suis, effectivement, en plus avec cette deuxième défaite à domicile, on va pas faire une croix bien sûr dès maintenant sur cette saison 2023-2024, mais ça va être très compliqué pour les Clermontois.
Bon, alors où l'on se parle, nous sommes le 1er janvier, nous sommes le 1er janvier 2024, s'il n'y a pas de recrues à des postes clés derrière, moi, je ne vois pas comment l'ASM peut envisager de faire quelque chose dans ce top 14. Et alors, peut-être qu'il y aura ces recrues, peut-être qu'elles vont être annoncées prochainement. Mais en l'état actuel des choses, avec l'effectif qu'il y a actuellement, je ne vois pas comment. Alors, l'ASM s'est renforcé devant. On l'a vu, ils ont fait plutôt Enfin, c'est plutôt cohérent ce que fait l'ASM devant. Mais derrière, il manque encore ce talent. Il manque, on l'a vu, s'il n'y a pas Urda Pileta, eh ben, c'est tout de suite plus compliqué. Si Moala et Raka ne sont pas dans une forme optimale, c'est tout de suite plus compliqué.
Et l'ASM a perdu joueurs, a perdu un joueur comme Penaud, par exemple, qui était.
Exactement.
Tu parles des facteurs X, qui en était un véritablement, et qui pouvait changer la phase de match.
Moi, je veux pas dire, mais là, c'est Tamboué et Ougarty qui étaient les ailiers titulaires à Bordeaux, qui sont normalement remplaçants. Mais moi, actuellement, s'ils portaient le maillot jaune et bleu, ils sont titulaires, hein, à mon avis. Enfin,
effectivement, la grosse différence, enfin, une des grosses différences entre Bordeaux et l'ASM, c'est la profondeur de banc, notamment derrière. Il faut dire que Bordeaux, en l'occurrence, présente ce qui se fait de mieux derrière avec, enfin, c'est des produits de luxe. Mais c'est vrai, comme disait Arnaud, on avait les seconds couteaux hein, derrière aux ailes, alors que bon, clairement, ils avaient leurs meilleurs couteaux aux ailes. Et quand ils n'ont pas les meilleurs couteaux, ben c'est bon, c'est Rosière, c'est Jurand quand ils jouent. Donc c'est pas la même musique, quoi. Je veux dire, bon, c'est sûr. Hein.
Avec l'effectif.
Juste pour ajouter, d'ailleurs, je pense que vous avez regardé ce documentaire de Canal+. Il y a des passages très intéressants, et notamment quand Christophe Furios dit le vrai Clermont, le Clermont qui dominait les débats, avait des joueurs,
des grands joueurs,
avec des grands joueurs à chaque poste, et voire deux à des postes importants. Et en signifiant qu'il fallait absolument que l'ASM rentre des grands joueurs, il a tout dit. Il a tout dit et c'est pour le moment ce n'est pas le cas. Je vois pas l'horizon s'éclaircir pour 2024
avec l'effectif tel qu'il est aujourd'hui. Oui, Clermont ne pourra pas jouer les premiers rôles dans ce championnat. Ce qu'on ressent, ce qui ressort aussi, ce qui est quand même palpable, c'est qu'on a l'impression de se répéter depuis des mois, de dresser les mêmes constats, et rien ne bouge quasiment. Comment l'expliquer ?
C'est un constat qui est un peu navrant, parce que depuis, même lors de l'ère, sous l'ère John O'Gibbs, on faisait souvent les mêmes débriefings d'après-match, hein, dans les litanies de défaites à l'extérieur, on parlait d'inconstance, de manque d'héralisme, etc. etc. Et ben là, c'est aussi un peu pareil, malheureusement, hein, depuis que Christophe... Alors, avec Christophe Furios, il y a eu une embellie certaine à domicile pendant toute la deuxième partie de saison l'an dernier, où ils ont fait sans faute. Bon, là, à domicile, il commence à être friable. Donc, ça commence à être un peu... se poser quelques questions aussi, hein, du coup.
Alors, vous parlez des grands joueurs avec le recrutement qui interviendra de toute manière l'été prochain. Si pour la troisième année de suite, l'ASM ne dispute pas la phase finale du top 14, si elle ne se qualifie pas pour la Champions Cup, est-ce que Clermont pourra toucher ces grands joueurs, justement ?
De toute façon, bon, les négociations, elles vont se faire avant que le verdict tombe. Donc, ça ne sera pas forcément dépendant de cette qualification au top 14, début juin, pardon. Donc, s'il doit faire venir des top guns, il faudra que ça se fasse indépendamment d'une éventuelle qualification.
Mais si pour une troisième année consécutive, il n'y a pas de qualification pour la phase finale, ça va. Et ça en dit long quand même sur ce club qui a pendant des années dominé le rugby français. Là, on pensait que c'était la première année de Christophe Furios. Il a fait venir son staff avec lui. C'est fidèles adjoints. On pensait en début de saison que la mayonnaise allait prendre, que ça allait se mettre en place. Et puis finalement, le temps passe et les résultats sont toujours
en danger. La mayonnaise mettra un peu plus de temps à prendre, car l'ASM n'a pas le même effectif que d'autres écuries du top 14, tout simplement. Et vous disiez, cher Manu, les qualifications pour la Champions Cup. Moi, j'ai le souvenir, l'ASM était sur Leicester Fainganoku, le 3 carré néo-zélandais, pour remplacer Damien Penaud. Pour combler le départ de Damien Penaud, ce joueur a préféré Toulon parce que Toulon jouait la Champions Cup. Donc effectivement, c'est vrai que une non qualification pour la grande Coupe d'Europe entre guillemets, ça peut jouer effectivement.
Est-ce que sur cette saison, est-ce qu'il peut y avoir un déclic malgré tout, même avec cet effectif-là, pour aller chercher cette place dans le top 6 ça...
C'est espéré, mais pour l'instant, on ne voit malheureusement pas de signal qui permette de l'envisager. Hein. La tendance est même plutôt inverse en termes de résultats. En termes de contenu, bon, c'est vrai que la prestation de vendredi était quand même... plus aboutie que celle à Pau et que celle à Gloucester, heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça serait grave. Mais c'était quand même, pour Tempéra, c'était quand même un match à domicile devant 18 personnes. Donc en termes d'engagement, en termes d'investissement, heureusement encore qu'il est à ce niveau pour des matchs à domicile face dans un stade plein. on verra si, mais ça, on commence à l'avoir vu malheureusement, s'il peut y avoir un déclic, il faudra qu'il se passe à l'extérieur. Et bon, le constat, le bilan de l'ASM à l'extérieur sur ces dernières saisons, c'est-à-dire trois victoires lors des deux dernières saisons, enfin des deux saisons précédentes, n'incite pas à l'optimisme.
Sachant qu'il y a deux déplacements qui se profilent.
Ouais, exactement. Barnaud, tout à fait. Falgou a dit, c'était la dernière phrase de son intervention après le match de Bordeaux. Oui, il faut regarder le haut, mais il faut aussi commencer à regarder le bas. Donc déjà, si l'ASM veut continuer à regarder le haut, il y a eu ces victoires impératives au Stade français. Sinon, je vois pas comment ça serait possible. Il y aurait trop de retard accumulé. Et le bas, ouais, quand on voit des équipes comme Lyon, Montpellier, Perpignan se refaire petit à petit la cerise.
Sans parler de scénario catastrophe, mais c'est quelque chose qui peut arriver. S'il y a deux défaites sur les deux prochains matchs avec les deux déplacements, donc au Stade français ce samedi à 17h et déplacement à Castres fin janvier après deuxième parenthèse de Challenge Cup, il pourrait y avoir danger pour les Clermontois.
C'est d'ores et déjà très mal embarqué, hein, puisque Clermont se retrouve déjà à plus d'une victoire de la sixième place. En ayant donc grillé deux jokers à domicile. Donc ces deux matchs à l'extérieur risquent malheureusement d'accroître le déficit et l'écart par rapport au top 6. Hein.
Top 6, c'est victoire impérative à Paris samedi. Il n'y a pas d'autre choix. Pas d'autre choix.
En tout cas, pas très optimiste.
Castres, où ils n'ont pas gagné depuis.
Oui, et puis Castres qui, quand même, est sur une saison.
Oui, puis Castres, pas trop mal. Castres, ça sera après la séquence européenne. Castres n'est pas une équipe impactée par le 15 de France. Donc, ça sera fin janvier, l'époque où les clubs enverront leurs internationaux avec l'équipe de France. C'est pas une équipe impactée par la sélection, donc.
Et qui ne fait pas un gros focus sur la Challenge Cup,
oui,
non plus.
Voilà, exactement.
Ça sera un match qui est d'ores et déjà marqué d'une croix rouge pour Castres, hein, ça c'est sûr.
Est-ce que le discours de Christophe Furios ne risque pas de s'essouffler à force si les résultats continuent à être en tente de scie
C'est comme c'est Christophe Furios, comme pour tous les autres entraîneurs, quand les résultats ne sont pas là. Effectivement, on peut parler, on peut changer de sport. Je pense que c'est pareil pour Clermont Foot avec Pascal Gastien. Enfin, quand les résultats sont pas là, ouais, le discours a plus de mal à passer.
Parce qu'on l'a vu dans le documentaire réalisé par Canal+, sur plusieurs séquences, plusieurs moments de à la mi-temps des matchs, hein, où on l'a vu passer des soufflantes à ses joueurs. C'est plus là-dessus, ouais, que je veux insister. Oui, au bout d'un moment, est-ce que ce type de discours, que c'est un levier qui va pouvoir activer pendant très longtemps?
Moi, je me méfie un peu des images, des images que l'on garde par rapport à ces documentaires, parce qu'elles sont choisies et donc on sait que pour que le documentaire marche, il faut qu'il y ait des séquences fortes. Donc c'est des séquences qui sont choisies, évidemment. Je pense quand même que c'est pas toujours ce genre de discours. Enfin, j'ose espérer que c'est pas toujours ce genre de discours qui tient, parce que ce serait intenable. Mm. Ça serait invivable pour les joueurs et ça serait aussi invivable pour lui, parce qu'on peut pas rester sur cette aussi haut en gamme toute une saison, tous les samedis ou tous les vendredis. C'est pas vivable.
Exactement,
c'est pas tenable.
Ça se trouve qu'il a poussé que de gueulantes et que c'est celle qu'on retrouve dans le documentaire.
Mais quand même, il a laissé entendre que après Pau, il pouvait envisager de changer des choses quand même en 2024 et qu'il n'était pas sûr encore de rester sur le même mode de management qu'il avait fait durant cette première partie de saison en raison des résultats décevants, des choses dont il s'aperçoit qu'elles ne tournent pas rond, quoi. Enfin, aussi bien et aussi vite qu'il le souhaiterait en tout cas.
En tout cas, on va attendre la fin de cette saison, mais si je vous écoute bien, messieurs, c'est surtout l'été prochain et le recrutement qui pourrait donner un nouvel élan à l'ASM. On suivra tout ça au cours de cette année 2024. Bah, merci, messieurs, en tout cas, d'avoir répondu à cette question. Avant de nous quitter, on va terminer avec les traditionnels top et flop. Vous connaissez le principe. Je vais vous demander un top ou un flop. On va commencer avec toi, Didier.
Ce sera un flop. Elle concerne un monument du rugby néo-zélandais, Samuel Whitelock, qui faisait sa qui disputait son premier match avec Pau à Oyonnax. C'était une entrée en matière très attendue, hein, très médiatisée. Et malheureusement pour lui et pour Pau, ça s'est traduit par une lourde défaite, et une défaite qui ne doit rien à personne, entièrement logique à Oyonnax, 34-13, et avec un Sam Whitelock qui a été, comme bon, tous ses coéquipiers, trop transparents pour espérer l'emporter à Oyonnax.
Il n'a pas connu le Charlemathon avec la pelouse naturelle à l'époque et qui était souvent très boueuse à cette période de l'année.
Le synthétique, c'est fantastique pour
Arnaud.
Alors moi, mon top, ça sera Maxime Lucu. Il a montré vendredi soir au Michelin. Qu'est-ce qu'était véritablement un joueur de stature internationale. Enfin, franchement, il a marqué 20 points, il est à 100% face au perche, il a animé le jeu de la formation girondine de main de maître. Sur l'essai, c'est lui qui bat 5 défenseurs. Sur le premier essai de Tamboué, c'est lui qui bat 5 défenseurs. Au ras des rucks, il a pas hésité à porter le ballon et faire des offloads. Chose que c'est pas trop dans sa nature, c'est plutôt un super gestionnaire. Et son jeu au pied, on sait qu'il a une qualité de jeu au pied exceptionnelle, de qualité internationale. Sur les sorties de camp, enfin franchement, il a tout fait. Et on voit vraiment, on a pu apprécier la différence entre un joueur de stature internationale et des joueurs de top 14, malheureusement pour l'ASM.
Comme l'avait été l'entrée de Baptiste Serin avec Toulon.
Exactement.
Toulon était venu l'emporter au Michelin. Hein. L'entrée de Serin avait tout changé, comme par magie, d'un coup de baguette magique. Un mec de classe, il avait fait basculer le match quasiment à lui tout seul.
Parfait. Bah, merci, messieurs. C'est la fin de cette émission. La semaine prochaine, vous retrouverez l'ami Grégory Gomez. D'ici là, passez une belle semaine et à très bientôt. Salut.
Salut à toutes et tous.